Le dévoilement de Dieu numéro 230. L'humilité avant la résurrection. Le 22 août 2021. Brian Kozurek. Pasteur. Ce matin, je voudrais examiner l'atmosphère dans laquelle je pense que l'épouse de Christ sera quand elle entrera au moment de la résurrection. Quand le cri entre dans la voix. Quand les morts ressuscitent et que les vivants reçoivent un changement de corps. Il y aura à ce moment-là une atmosphère dans laquelle l'épouse Esther entrée. Et je crois que ce sera une atmosphère d'humilité, qui Esther une humilité d'esprit, qui créera en elle une attente de la résurrection. Car elle nous a promis dans Jacques 4.10, « Humiliez-vous devant le, la présence du, Seigneur, et il vous élèvera. » Et cela me semble être une promesse d'enlèvement, car il nous Esther promis que nous serons enlevés pour toujours être avec lui. Job 22.29 Vienne l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu, ou la personne humble. Matthieu 23.12 Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Et ce mot élevé vient d'un mot grec usou, qui signifie être approuvé et exalté. Et combien plus pouvez-vous être approuvé et exalté en cette heure, que d'être pris en haut pour le rencontrer dans les airs. Nous voyons la même promesse, dans Luc 14.11 car quiconque s'élève sera abaissé, et, quiconque s'abaisse sera élevé, approuvé et exalté. À nouveau, nous voyons aussi cette promesse être mentionnée par Jésus dans Luc 18.14 je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifiée. Plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Approuvé et exalté, et nous voyons aussi l'apôtre Pierre dire dans 1 Pierre 5.6 « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, afin qu'il vous approuve et vous exalte en temps voulu. » Cela me semble être une promesse pour l'enlèvement, car comme je l'ai dit, il n'y a pas de plus grande promesse de vous approuver et de vous exalter que de vous prendre avec lui quand il quittera cette maison de pestiférés. Je sais qu'il y a des gens qui diront que c'est Esther faux et que cela signifie simplement que si vous vous abaissez, vous serez élevé devant tout le monde, comme si une personne qui baisse la tête et marche dans la misère sera un jour appréciée et changée en un président ou à une quelconque fonction élevée. Mais de s'humilier n'a rien à voir avec votre comportement pitoyable ou votre dépréciation. Il a tout à faire avec votre soumission à la parole de Dieu. Et la promesse de Dieu de nous prendre dans un enlèvement n'est-elle pas pour ceux qui se flagellent eux-mêmes, mais pour ceux qui ont abandonné leur corps, leur âme et leur esprit à Dieu de telle manière que Dieu les remplira de sa parole et de son esprit. Tout avec Dieu a à voir avec sa parole et le fait que vous l'entendez, la reconnaissez, puis agissez en conséquence. Mais la religion se réfère toujours aux œuvres et c'est Esther là qu'ils font erreur. Dans Dieu dévoile page 19 frère Branham utilise l'une de ses écritures pour son texte, Philippiens 2. Si donc il y a quelque consolation Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Néhémie fait rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est-il dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, eût-il s'est-il humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. 9 Esther pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est Esther au-dessus de tout nom, et encore dans Dieu de Waldim 14 juin 64 et midi, 328 non pas, ces jours-là. Lui, c'est Esther du passé. Il est Esther mort, et c'est Esther fini. Alors, mon ami, si vous croyez ça, vous n'êtes jamais entré en contact avec la gloire de la Shekhinah. Comment la gloire de la Shekhinah pourrait-elle jamais révéler qu'il est Esther trois personnes? Voyez, comment la gloire de la Shekhinah pourrait-elle jamais le révéler dans un baptême des gens au nom de Père, Fils et Saint-Esprit, alors que pas une seule personne dans la Bible n'a été baptisée de cette manière-là? Comment la gloire de la Shekhinah pourrait-elle le restreindre à un apôtre, alors qu'il est Esther le même hier, aujourd'hui et éternellement? Voyez, 329 la gloire de la Shekhinah le manifeste, lui. Elle produit la parole de la promesse, directement devant vous. C'est Esther pour cette raison qu'il lui a fallu voiler le visage de Moïse. C'est Esther parce qu'en lui se trouvait la parole. Il a voilé Jésus, sous forme d'un petit homme humble, pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Et il se voile aujourd'hui dans des vases de terre, avec la Shekhinah. Au dehors, ça ressemble à une bande d'exaltés, de vieilles peaux de blaireau. Mais au-dedans se cache la gloire de la Shekhinah. Elle fait mûrir le pain de proposition dont nous nous régalons et pour lequel nous faisons des centaines de miles en voiture, d'un bout à l'autre du pays. Voyez, c'est Esther la nourriture des croyants. C'est Esther destinée uniquement aux croyants. Souvenez-vous, le pain de proposition était destiné uniquement aux croyants. Uniquement. Voyez-vous, la semence pain de proposition. Dieu de Waldim 14 juin 64 M 374 J'aime ses attributs de la parole. Voyez-vous, le Saint-Esprit qui vient de cette façon toute douce, toute humble. Romains 12.3 Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous ou à chaque homme parmi vous, le mot parmi vient d'un mot grec qui signifie non seulement près ou au milieu de vous, mais il signifie aussi en repos. Nous pouvons donc lire cela ainsi, car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est en repos avec vous en Christ, de n'aimer pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais d'avoir une opinion sobre ou de faire preuve de bon sens, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Selon la mesure de foi, selon la mesure de révélation que Dieu vous a donnée. De même que Jésus-Christ Esther humilié même jusqu'à la mort de la croix. Et nous voyons que c'est Esther son humilité qu'il a amené sur le chemin de l'obéissance totale et une fois qu'il a prouvé sa confiance en Dieu, alors, dans l'humilité, il a parcouru son dernier kilomètre jusqu'à la croix, faisant confiance à Dieu pour le ressusciter. Il y a des années, j'ai fait un rêve si réel que j'en ai ressenti l'atmosphère pendant plusieurs mois. J'étais dans le salon de Branham, dans sa maison sur Ewing Drive et il y avait des chaises pliantes placées en cercle dans son salon. J'étais assis là et frère Branham était entré et j'ai immédiatement senti la présence du Seigneur, telle qu'une présence digne de respect, d'une vraie humilité et d'une réelle révérence. C'était la meilleure façon d'expliquer ce que j'ai ressenti dans ce rêve. Et après s'être assis à quelques chaises de moi dans le cercle, il était à trois chaises à ma droite. J'ai humblement levé la tête et je l'ai vu et je lui ai demandé, « Frère Branham, puis-je vous poser une question ?» Et il a répondu, « Oui. » Et j'ai dit, « Comment est-ce que ça sera lors de la résurrection ?» Et il m'a répondu « Ça sera comme un suicide » et j'ai tout de suite su qu'il ne me disait pas que ce serait un suicide, mais comme un suicide. Autrement dit, l'atmosphère sera telle que notre décision sera prise et il n'y aura pas de retour en arrière. Nous serons scellés dans notre destinée. Et je crois que cette atmosphère devra venir parmi nous, mes frères et sœurs. Et ce sera la même atmosphère dans laquelle Jésus est entré, d'humilité totale, qui est une humilité d'esprit. Il est allé à la croix dans cet état d'esprit, s'en remettant totalement à Dieu, pour chacun de ses mouvements à ce moment-là. Remarquez, dans le passage que nous avons lu ce matin, ce que l'apôtre Paul a dit sur l'opinion que nous devons avoir concernant notre position en Christ. Romains 12.3 Car je dis, par la grâce qui m'a été donnée, à tout homme qui est en repos avec vous en Christ, de n'aimer pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais d'avoir une opinion sobre, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Maintenant, Paul parle ici d'orgueil de soi, et avertit les croyants de n'aimer pas se permettre, à cause de la révélation de Jésus-Christ que Dieu nous a donnée, de penser que, d'une façon ou d'une autre, puisque cela nous a été révélé et pas aux autres, nous sommes meilleurs que les autres. Rappelez-vous toujours, l'orgueil précède la chute. Et monter, c'est à descendre et descendre. C'est à monter. Donc, si l'enlèvement, c'est à monter, alors nous devons prendre le chemin de l'humilité afin d'entrer dans sa présence. Et croyez-moi, Dieu produira en nous le vouloir et le faire. Et s'il faut que nous ayons cette façon de penser afin d'être approuvés et exaltés dans l'enlèvement, c'est lui qui vous y amènera, et pas vous-même. C'est pourquoi, en substance, l'apôtre Paul dit, « Trois Dieu m'a donné la grâce de donner un avertissement concernant l'orgueil. Je demanderai à chacun de vous de se vider de sa promotion personnelle et de n'aimer pas créer une fausse image de votre propre importance. Au lieu de cela, évaluez honnêtement votre valeur en utilisant la révélation vous donnée par Dieu, comme norme de mesure, et alors vous verrez votre vraie valeur et aurez une estime de vous appropriée. » Laissez-moi vous lire une autre traduction. La version Le Message de la Bible le dit ainsi, « 3 Je vous parle avec une profonde gratitude pour tout ce que Dieu a donné, et d'autant plus que j'ai des responsabilités vis-à-vis de vous. Vivant alors, comme chacun de vous, par pure grâce, il est important que vous n'ayez vous interprétez pas comme des personnes qui apportent cette bonté à Dieu. Non, c'est Dieu qui vous apporte tout. La seule façon précise de nous comprendre nous-mêmes, c'est par ce que Dieu est et par ce qu'il fait pour nous, non pas par ce que nous sommes et ce que nous faisons pour lui. Et quand vous comprenez que ce message est le message de grâce, alors comment pouvez-vous vous enfler d'orgueil et penser que vous-même, ou votre église, ou votre groupe, est meilleur que n'importe qui d'autre? Paul ici dit simplement aux gens n'aimez pas s'enfler d'orgueil par la révélation, la mesure de foi, car la foi est quelque chose que Dieu vous a révélé et vous n'êtes que le bénéficiaire de ce qu'il a révélé, et non l'auteur de cela. La grâce signifie une faveur imméritée, et si elle n'est pas méritée, alors vous n'avez rien à voir avec le fait de la recevoir. C'est un don de Dieu pour vous. La foi est quelque chose qui vous a été révélé. Car après tout, dit Paul, ce n'est pas votre fait, mais c'est entièrement la grâce de Dieu pour vous qu'il se révèle à vous. Par conséquent, en examinant l'humilité selon la Bible, nous trouvons alors qu'il ne s'agit pas tant d'un maniérisme, ni d'une action de votre part, car c'est votre état d'esprit et de cœur. Et cela est placé là par Dieu par la révélation de Jésus-Christ. En termes simples, l'humilité biblique consiste à reconnaître votre position dans l'Évangile, ou à reconnaître votre position en Christ. Et à connaître votre place dans la famille de Dieu. Une femme, dont vous critiquez le mari Néhémie, ne connaît pas sa place dans la famille. Et l'enfant qui essaie de corriger ses parents Néhémie, ne connaît pas sa place dans la famille. Au temps biblique, il y avait une punition sévère pour un enfant et une femme, qui manquaient de respect au chef de famille. Alors l'humilité, mes frères et sœurs, Sister, de connaître votre place dans la parole de l'heure et connaître votre place dans la famille de Dieu. Frère Branham dit dans son message, n'ayez pas peur. Sister Moavn 14 avril 61. 65 Certaines personnes pensent que l'humilité, c'est quelque chose qui doit porter une jupe. Représentez-vous cela dans votre esprit. Il utilise ici des mots imagés. Quand vous pensez à un homme en jupe, vous pensez à une sorte d'homme féminisé, qui est Stern Mauviette effacé. Mais il poursuit en nous disant que cette façon de penser est totalement fausse. Il dit, non, non. Vous comprenez mal à qui cela. Jésus, l'homme le plus humble qui ait jamais vécu, pouvait tresser des cordes, regarder les gens avec colère et les chasser du temple. Oui, oui, certainement. Ainsi frère Branham corrige ici votre mauvaise façon de penser. Il vous dit d'éloigner aussi loin que possible de votre pensée cette idée stupide de ce qu'est l'humilité, car en opposant un Jésus en colère fouettant les changeurs avec une jupe que porte une mauviette, et ce faisant, il vous montre que votre conception est totalement fausse, totalement fausse. Et donc l'apparence extérieure n'a rien à voir avec la vraie humilité. Il continue, 66 vous dites, il avait de la compassion. Effectivement. Pourquoi est-il passé au milieu des milliers de gens qui étaient étendus là? Des aveugles? Des boiteux? Des paralytiques? Pour aller trouver un homme qui était étendu sur un grabat. Qui souffrait peut-être de la prostatite? Cet homme pouvait marcher. Il a dit, lorsque je descends, quelqu'un me devance. Cela n'allait pas le tuer, il souffrait de cela depuis 38 ans. La Bible dit que Jésus a traversé cette grande multitude d'estropiés, d'aveugles, de boiteux et de paralytiques. Est-ce juste, frère? Un Dieu compatissant passait au milieu de ces gens de personnes pour aller trouver un homme qui était couché sur un grabat. Combien savent ce qu'est un grabat? J'ai été élevé sur un grabat. Voyez-vous? Ainsi. Et puis, vous. Il était couché sur ce grabat. Et voilà qu'il était étendu là. Et Jésus a regardé tout autour jusqu'à ce qu'il le trouvât. Et la Bible dit qu'il savait qu'il était dans cet état. Et il a dit, veux-tu être guéri? Pourquoi pas un estropié? Qu'en était-il de cette femme-là qui avait un bébé mourant? Qu'en était-il de cela? Qu'en était-il des autres? Veux-tu être guéri? Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Lorsque j'y vais, quelqu'un d'autre y descend. Jésus a dit, tu souffres de cela depuis 38 ans. C'est juste. Très bien. Prends ton lit et rentre chez toi. L'homme n'a pas du tout posé des questions. Il a simplement pris son lit et il s'en est allé. Est-ce juste? 67 Et les pharisiens et la cour de Sanhédrin, l'église, l'ont interrogé. Qu'en est-il de tout ceci? Il a dit, en vérité, je vous le dis, je peux. Le fils Néhémie peut rien faire de lui-même. Mais Néhémie fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Voilà la compassion. La compassion consiste à se conformer à la volonté de Dieu. Ce n'est pas la sympathie humaine, mais la compassion. Oh! Ce sont deux mots totalement différents, la sympathie et la compassion. Voyez-vous? Si ce n'était pas le cas, c'est que Jésus a sûrement fait une terrible erreur lorsqu'il a fait cela. Voyez-vous? Alors il nous dit comment un homme qui a une vraie compassion et une vraie humilité Néhémie fera que ce que le Père veut qu'il fasse. Dans le livre de Saï, il nous dit que le serviteur complet et parfait est celui que Néhémie voit que ce que le Père lui montre, et n'entend que ce que le Père lui dit. Ésaïe 42.19 Qui est-ce aveugle? Sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie. Qui est-ce aveugle? comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Et ce parfait serviteur Esther, le fils premier-né de Dieu, comme le témoignage de sa propre bouche en témoigne. Jean 5.19 Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le fils n'est mis peut rien faire de lui-même, il n'est mis fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le fils aussi le fait pareillement. Et c'est-à-dire la relation d'amour entre le Père et le Fils comme Jésus nous dit au verset 20 car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Par conséquent, si le Père aimait le Fils et par conséquent lui montrait tout ce qu'il faisait, alors cet amour n'aimé se manifestera-t-il pas de la même manière avec tous les vrais fils? À nouveau dans Jean 5.30 je n'ai mis puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je n'ai mis cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui ou du Père qui m'a envoyé. Ainsi Jésus connaissait sa position légitime dans la famille et avec son Père. Et c'est-à-dire les vraies humilités selon la Bible, comme nous en verrons plus d'exemples plus tard dans ce sermon. Trop de gens ont une mauvaise compréhension de ce qu'est l'humilité. Ils pensent que le gars qui se balade comme un torchon, c'est celui-là qui est humble. Mais frère Branham a remis ici les pendules alors quand il dit Jésus-Christ est l'homme le plus humble qui a jamais vécu. Puis il parle de compassion et dit, la compassion n'est pas la sympathie humaine, mais c'est faire la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce qu'est l'humilité, connaître sa place et marcher dans le commandement dans lequel on vous a appelé. Et c'est exactement ce que Paul aborde lorsqu'il dit dans Philippiens 2.13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Et si c'est Dieu qui fait cela, alors c'est Dieu qui produit la même humilité dans ses enfants élus. Puis l'humilité n'est pas ce que vous faites, mais ce à quoi vous vous abandonnez. Et c'est ce que disait l'apôtre Paul, lorsqu'il dit, « N'aimez vous enflez pas d'orgueil et n'ayez plus une trop haute opinion de vous-même, mais considérez plutôt la mesure de foi, la révélation que Dieu vous a donnée, et humiliez-vous devant cela. » L'humilité n'est pas du maniérisme féminin ou efféminé, mais la vraie humilité est de connaître votre position dans l'Évangile, et de rester fermement dans cette position, car quand vous aurez fait tout ce que vous pouvez pour être dans cette position, alors il dit, restez simplement dans cette position. La raison pour laquelle les enfants d'Israël ont dû errer dans le désert pendant 40 ans, c'est parce qu'ils étaient un peuple orgueilleux et Dieu a dû les humilier. Deutéronome 8.1 Vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, et que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. 2 Souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. 3 Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu n'aimé connaissais pas et que n'avait pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme n'aimé vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. 4 Ton vêtement n'aimé s'estère point usé sur toi, et ton pied n'aimé s'estère point enflé, pendant ces 40 années. 5 Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. 6 Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre. 7 Car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Maintenant, le châtiment est toujours une expérience humiliante. Aucun homme n'aime être humilié. Mais la Bible nous dit que ça se sert mieux de s'humilier soi-même au lieu que ce soit Dieu qui vous humilie. Et nous savons pourquoi tout le supplice de Pharaon Esther arrivé. S'Esther parce qu'il a refusé de s'humilier devant Dieu. Exode 10.3 Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon. Et lui dirent, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des Hébreux, jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple. Afin qu'ils me servent. Nous lisons dans Matthieu 21.42 Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient Esther est devenue la principale de l'angle? C'est Esther du Seigneur, que cela Esther venue? Et c'est Esther un prodige à nos yeux? 43 C'est Esther pourquoi? Je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé. Et sera donné à une nation, qui en rendra les fruits. 44 Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, s'y humiliera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Examinez encore la condition des enfants d'Israël. Et ce que Dieu a dû faire pour les humilier dans Deutéronome 8.14. Prends garde que ton cœur n'émisse s'enfle. Et que tu n'oublies l'Éternel. Ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude. 15 Qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert. Où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus dur, 16 qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour te faire ensuite du bien. 17 Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. 18 Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est Esther lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. 19 Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. 20 Vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous. Parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel, votre Dieu. Remarquez, Dieu veut que nous marchions dans l'humilité en sachant très bien qu'il Esther celui qui Esther ici pour nous conduire au millénium. Nous n'aimons nous conduisons pas nous-mêmes. Ce n'Esther pas un ministre qui nous conduit. Frère Branham nous dit dans le troisième exode que la colonne de feu nous conduit au millénium. Dans son sermon le troisième exode dit 30 juin 63 et il nous dit, 127 maintenant, j'aimerais que vous remarquiez que cette même colonne de feu Esther encore en train de conduire les gens vers une terre promise, le millénium. Nous avons vu cela sous l'inspiration de ce sixième sceau. Jamais auparavant, il n'a jamais été enseigné comment la terre doit être purifiée pour le millénium. La colonne de feu les conduit à un millénium. 128 Et notez bien. La colonne de feu qui avait conduit l'Israël hors de l'esclavage pendant cet exode-là. La colonne de feu. Sous la conduite de Dieu. Dieu était le feu. Et la colonne de feu Néhémie faisait coindre le prophète. La colonne de feu devait être là comme un témoin céleste de ce que Moïse a été appelé à sortir. Vous souvenez-vous de Dathan et des autres? Il a dit, eh bien, il nous faudra commencer une organisation. Moïse, tu en prends trop sur toi. Tu veux dire que tu es le seul saint parmi nous? Toute l'assemblée du Seigneur est terre sainte. Comment peux-tu tout attribuer? Et Moïse tomba sur son visage et se mit à pleurer. Dieu lui dit, sépare-toi de lui. Je vais tout simplement ouvrir la terre et l'engloutir. C'est Esther un type. Comment Moïse pouvait? Il leur a dit qu'il leur répétait les paroles de Dieu et Dieu confirmait que c'était la vérité. À nouveau, dans le troisième exode 30 juin 63 et il nous dit, 131 c'est apostrophe était un feu ardent, cette colonne de feu dans le buisson. Quand il Esther mort et qu'il Esther ressuscité le troisième jour, alors seul l'a rencontré sur le chemin. Là, il était redevenu cette colonne de feu. Il a dit, je viens de Dieu et je vais à Dieu. Quand Pierre était en prison, cette colonne de feu entra, ouvrit les portes et l'en a fit sortir. C'est-il vrai? Où cette colonne de feu les a conduits? Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était un conducteur oint par la colonne de feu, et la colonne de feu Néhémie faisait que confirmer son message par des signes et des prodiges. Et cette colonne de feu les a conduits vers le pays que Dieu leur avait promis, où Dieu lui-même allait un jour devenir chair parmi eux. N'est-ce pas vrai? Qu'ont-ils fait? Ils murmurèrent et se rebellèrent et tout le reste, ce qui montrait qu'ils étaient sous le sang d'un agneau ordinaire. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu! Cette colonne de feu que nous voyons parmi nous, cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Là, il retournera vers son peuple pendant ce glorieux règne de millénium. Après cet exode, là nous vivrons avec lui éternellement. Il a toujours la parole du Père. Il démontre toujours qu'elle est vraie. Et si Dieu a humilié ceux qui sont entrés dans la terre promise, Néhémie fera-t-il pas de même pour vous et moi, qui sont sur le point d'entrer dans la terre promise, le millénium? Et je dis qu'il le fera. Car il est Dieu et il Néhémie change pas. Ceux qui Néhémie voulaient pas être humiliés par Dieu sont morts dans le désert dans des conditions cruelles. Et certains sont morts d'une mort très misérable. Et nous avons une pression sur nous maintenant, et cela se changera en tribulation un de ces jours, et ceux qui Néhémie marcheront pas dans la lumière comme lui Esther dans la lumière, et Néhémie se soumettront pas au commandement de la parole de Dieu devront, un de ces jours, le payer de leur sang. Car la promesse suffisante du sang n'est donnée qu'à ceux qui marchent dans la lumière comme lui, Dieu, Esther dans cette lumière. Et si Esther dans la lumière alors le fait de marcher dans la lumière ou dans la parole, Esther lui a la marche dans sa présence. Et si vous marchez ainsi, alors le sang de Jésus-Christ vous purifiera de tout péché. En dehors de cela, vous n'avez pas le sang de Christ, vous n'avez que vos œuvres religieuses, et vous irez dans la tribulation pour que votre orgueil soit purgé de vous comme avec Israël dans le désert. Mais on nous promet dans 2 Chroniques 7.14 de si mon peuple sur qui Esther invoquait mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Et donc nous voyons que l'humilité Esther notre voie vers les promesses de Dieu s'accomplissant dans nos vies. Dans son sermon laisse échapper la pression 22 juin 62 des frères Branham dit 14 l'humilité, c'est Esther la voie vers le succès. Et Dieu a dit qu'une Néhémie partagera sa gloire avec aucun homme. Par conséquent, il n'utilisera que les hommes qui sont assez humbles pour lui donner toute la louange, l'honneur et la gloire. Dans Colossiens 3.12 nous lisons, 12 ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 13 supportez-vous les uns les autres, et, si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. 14 mai par-dessus toutes ces choses revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. 15 et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. 16 que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. 17 et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Par conséquent, l'humilité n'estère pas les entrailles de miséricorde. L'humilité n'estère pas la bonté. L'humilité n'estère pas la douceur, ni la patience. L'humilité est répertoriée ici comme l'un des nombreux différents attributs, mais elle n'estère pas ses attributs. Cependant, si vous êtes un véritable chrétien, vous posséderez tous ces attributs, en plus de l'humilité. L'humilité, c'est sa reconnaître sa position dans les Écritures. L'humilité, c'est sa reconnaître sa position dans le plan de Dieu. Regardez ce qui s'Esther passa avec le frère aîné de Moïse, Aaron, et sa sœur aînée, Myriam. Ils sont devenus un peu trop arrogants avec lui, et Dieu a dû les démolir pour briser cet esprit et humilier leur cœur. Nombre 12.1 Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Deux ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? 3 Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. 4 Soudain l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. 5 L'Éternel descendit dans la colonne de nuée, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux. 6 Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est Esther dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est Esther dans un songe que je lui parlerai. 7 Il n'en estère pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il estère fidèle dans toute ma maison. 8 Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur? Contre Moïse. 9 La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. 10 La nuée se retira de dessus la tente. Et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. 11 Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, n'aie-moi nous fait pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. 12 Oh. Qu'elle Néhémie soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair Esther est moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. 13 Moïse cria à l'Éternel, en disant, ô Dieu, je te prie, guéris-la. 14 Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, Néhémie serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte? Qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi, elle sera reçue. 15 Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp, et le peuple Néhémie partit point, jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. 16 Après cela, le peuple partit de Hacéroth, et il campa dans le désert de Paran. Encore une fois, nous allons revenir au sermon de frère Branham un témoignage en mer jeu 26 juillet 62 et revoir ce qu'il avait à dire sur la vraie humilité. Maintenant, dans ce scénario, frère Branham présente les disciples en train de parler de Jésus et de la femme au puits. Ils sont en route pour la ville et ils l'aperçoivent en train de parler à cette femme, une prostituée, et ils ont entendu la conversation, et ils peuvent à peine croire ce qu'ils entendent. Pensez-y, après avoir suivi cet homme pendant 2-3 ans et n'avoir trouvé aucune tâche dans sa vie, et puis tout d'un coup, vous le voyez avoir cette conversation avec une prostituée? pp. 44 Mais finalement, nous avons découvert qu'il sollicitait une faveur auprès d'elle. Il a dit, apporte-moi à boire. Eh bien, nous savions qu'aucun rabbin, Personne parmi nos pharisiens Néhémie demanderait à une telle femme de faire quelque chose pour lui. Mais là se tenait notre maître, le Dieu de la création, se tenant là dans un corps de chair et demandant à une femme de mauvaise réputation de lui donner à boire, de lui rendre un service. Amen. 45 sester ce qui fait de lui Dieu pour moi. Parce qu'il sester humilié. Dieu ester l'humilité. N'oubliez jamais cela. L'humilité, sester Dieu. Néhémie vous gonflez jamais. Ni. Sester toujours l'humilité. Et nous l'avons entendu. Nous nous sommes dit, sûrement que dans une minute, il attrapera un fouet et la renverra dans la ville, d'où elle vient. Mais il a dit, apporte-moi à boire. Et ils se sont mis à parler religion. Elle a dit, nous adorons sur cette montagne-ci. Vous dites que sester à Jérusalem et ainsi de suite. Il lui a parlé un moment. Et peu après, il lui a dit, va, appelle ton mari, et viens ici. Alors, elle a répliqué, disant, je n'ai point de mari. Vous rappelez-vous? Regardez l'attitude du pharisien qui a invité Jésus chez lui, et qui n'a pas eu la courtoisie de lui laver les pieds. Luc 7.36-50. Alors Dieu envoya une autre personne, une femme de mauvaise réputation, une prostituée, Marie-Madeleine, laver ses pieds avec ses larmes, et de les sécher à l'aide de ses longs cheveux. Cela vous montre combien Dieu est humble, de permettre qu'un tel service lui soit rendu de la part d'une personne de mauvaise réputation, que les pharisiens ont même pensé que s'il était spirituel, il serait horrifié par ce qu'elle avait fait. Mais il regarda son cœur repentant, pas à sa chair. Il regarda son désir de connaître sa position dans la parole. Et ce qu'elle a fait était écrit dans la parole. D'accomplir ce que Dieu avait placé dans son cœur avant les fondations du monde. Remarquez comment Dieu laisse ses serviteurs dire certaines choses qui peuvent sembler fausses sur le moment, mais attendez simplement, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, et Néhémie se lasse point, ils marchent, et Néhémie se fatigue point. Osaïe dit au roi Achaz qu'une vierge concevra comme un signe de Dieu, mais Dieu n'a pas fait s'accomplir ce signe pendant encore plus de 700 ans. Mais remarquez ce qu'il a dit quand il a dit que c'était presque, comme s'il avait dit que le signe était pour Achaz. Ésaïe 7.1 Il arriva, du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozia, roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pekak, fils d'Ormalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger, mais Néhémie put l'assiéger. Maintenant, passons au verset 10, Ésaïe 7.10 L'Éternel parla de nouveau à Achaz, et lui dit, on se demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. 12 Achaz répondit, je Néhémie demanderai rien. Je Néhémie tenterai pas l'Éternel. 13 Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Esther c'est trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu. 14 Esther pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Maintenant, qu'est-ce que ces gens, qui prétendent croire le signe mais pas le messager, vont dire de ça? On dirait que le signe était pour Achaz, mais pourtant Achaz était mort et enterré 700 ans avant que Dieu accomplisse ses promesses. Dans le livre des Actes, nous trouvons aussi l'apôtre Paul montrant sa véritable humilité. Acte 20.18 Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, Je me suis sans cesse conduit avec vous. 19 Servant le Seigneur en toute humilité, d'esprit, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Maintenant, nous avons vu que chaque ministère sous la colonne de feu a marché dans une vraie humilité. Nous voyons Moïse, et Jésus, et Paul, et en ce jour nous l'avons également vu dans William Branham. Chacun d'eux connaissait sa position et a fait exactement ce que Dieu lui a montré de faire. Rien de plus et rien de moins. C'est-à-dire la vraie humilité. Connaître sa position dans la parole. Dans Philippiens 2.3 nous lisons, « Néhémie fait rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité d'esprit vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et l'expression humilité d'esprit est le même mot grec utilisé pour s'humilier. Maintenant, revenons au livre de l'Exode et examinons cette humilité que Dieu attend de ceux qui le servent. Exode 4.14 Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même, qui vient au-devant de toi. Et, quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. 15 Tu lui parleras, et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. 16 Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Et n'est-ce pas exactement ce que Dieu a encore fait en cette heure? Puisque Dieu a mis les paroles à dire dans la bouche de Moïse. Et ces mêmes paroles, il les a mises à dire dans la bouche d'Aaron. Ce même Dieu a mis sa parole dans la bouche de son prophète William Branham et a donc également mis ces mêmes paroles dans la bouche de son véritable quintuple ministère élu. Et tout comme Dieu a promis d'être avec la bouche de Moïse, il a également promis d'être avec la bouche d'Aaron, le ministre de Moïse. Et donc si Dieu a envoyé dans l'Église un quintuple ministère, Néhémie, pensez-vous pas que Dieu Néhémie sera pas également avec leur bouche? Le Talmud traduit ce passage ainsi, Dieu montra de la colère envers Moïse pour avoir refusé d'accepter le rôle de chef. Aaron, qui était à l'origine censé être lévite, n'est-il pas ton frère et n'est-il donc pas jaloux de ta grandeur? Lui, Aaron vient dans le désert à ta rencontre, Moïse. Et quand il te verra, il sera content dans son cœur et Néhémie sera pas jaloux que tu sois plus grand que lui. À cause de cela, tu seras maintenant lévite et Aaron sera sacrificateur. L'enseignement hébreu nous dit qu'Aaron a fait preuve d'une véritable humilité, car il n'était pas jaloux des réalisations de son jeune frère. Aaron a mérité le sacerdoce, pour lui-même et pour tous ses descendants, parce que cela Néhémie lui importait pas, que son jeune frère le surpassait de loin. Aaron était un grand personnage, à part entière. Le livre de Ézéchiel mentionne qu'avant que Moïse Néhémie devienne chef, c'était Aaron qui était chef et prophète en chef des Juifs en Égypte. C'était auprès d'Aaron que tout le monde venait pour des conseils et des directives sur comment trouver Dieu. Malgré tout le labeur et les efforts qu'Aaron a déployés pour le bien du peuple juif, Moïse le surpassa en grandeur. Aaron était heureux dans son cœur quand il a découvert que Moïse l'avait surpassé et l'avait ainsi remplacé en tant que chef et prophète en chef. Cela signifie qu'Aaron fut capable de s'humilier et se soumettre à la direction du Saint-Esprit à travers son frère cadet que Dieu avait choisi de diriger. Laissez-moi vous lire encore quelques passages des Écritures sur l'humilité et son importance dans le plan de Dieu. Dans Proverbe 15.33 nous lisons, « La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. » Proverbe 18.12 Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Proverbe 22.4 Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, Sester la richesse, la gloire et la vie. Colossiens 3.12 Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, d'esprit, de douceur, de patience. Psaume 9.13 Car il venge le sang et se souvient des malheureux ou des humbles. Il n'oublie pas leurs cris. Psaume 10.12 Lève-toi, Éternel. Ô Dieu, lève ta main. N'oublie pas les malheureux ou les humbles. Psaume 10.10 Tu entends le vœu de ceux qui souffrent ou des humbles. Ô Éternel, tu as fermé leur cœur, tu prêtes l'oreille. Psaume 69.32 Les malheureux ou les humbles le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Ésaïe 57.15 Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié ou humble d'esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs, la compréhension contrit. Matthieu 18.4 Sester pourquoi? Quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 5 Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Remarquez l'attitude de l'apôtre Paul. Actes 20.18 Je me suis sans cesse conduit avec vous. 19 Servant le Seigneur en toute humilité, de l'esprit, avec larmes, et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. 20 Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. 21 Annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Son humilité d'esprit était liée au fait de montrer, d'enseigner et d'exposer la parole de Dieu aux gens. Ce n'était pas une fausse démonstration d'humilité comme la modestie des bouffons que le Seigneur vous bénisse mon précieux frère. C'était le fait de prêcher la parole et de ne rien retenir qui a montré la véritable humilité de l'apôtre Paul envers la parole de Dieu. Et regardez, Sester cette même attitude que l'apôtre Pierre dit que nous devrions avoir. 1 Pierre 5.4 Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, lors de son apparition, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire, doxa. 5 De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. 6 Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Remarquez comment Jésus s'était humilié devant la parole de Dieu, lorsqu'il a dit, « Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Pourquoi? 20-22 juin 62 et 54 Le Saint-Esprit n'émit brille pas, le Saint-Esprit lui. Il y a une différence entre luire et briller. L'Église brille avec ses grands programmes, mais le Saint-Esprit lui dans l'humilité, la modestie, se réconciliant avec la parole, croyant la parole. Lavez les pieds de Jésus dit 10 mars 57 P13 Nous voyons la même chose aujourd'hui. Des gens qui veulent faire de l'EHPAD pour que les autres du dehors les regardent. Que quelqu'un dise que Sester est un grand personnage. Il cherche à organiser la plus grande réunion, ou le plus grand ceci, ou le quelque chose qui aura un impact sur la foule la mieux vêtue, qui fréquente leur église, la plus grande église, le plus haut clocher, les meilleurs bancs, quelque chose de grand. Ce qu'il nous faut, Sester davantage de Dieu et pas tant de choses du monde. Celui qui s'humiliera, Dieu l'élèvera. Mais l'humilité doit venir en premier. Dieu se cache dans la simplicité 12 avril 63 S 292 Notre Père Céleste. L'humilité de croire en toi. Oh! Comme tu te révèles dans l'humilité. Oh! Comme, Nous voyons dans ces jours, et dans tous les autres, que l'Église se retrouve dans cet état. Alors tu t'abaisses directement dans la fosse, venant de nulle part, tu ramasses quelque chose, tu loins, tu l'envoies, mais cela sera rejeté, alors le monde sera jugé par cela. Exposé des sept âges de l'Église. L'âge de l'Église de Smyrne. Page 156-156-2 Nous retrouvons le même modèle dans chaque âge. C'est pour cela que la lumière vient à travers un messager de Dieu, dans une certaine région. Ensuite, à partir de ce messager, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignées. 2 Timothée 2.2 Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'enseignement hébreu poursuit en citant le livre de l'Exode et dit, que c'est la fonction principale du sacrificateur, Exode 4.14 Par conséquent, le début du verset dit, Aaron n'est-ce pas ton frère, qui est désigné à l'origine comme Lévite, qui a maintenant été choisi pour être sacrificateur, parce qu'il s'est humilié devant toi Moïse le tzaddik, quand il, Aaron, te verra, Moïse, le chef tzaddik de la génération, il se réjouira dans son cœur et se soumettra à toi pour pouvoir recevoir la lumière de Dieu, l'enseignement hébreu de l'Ekutalachot. Orakshiam, il chante Philin 7, 8, poursuit en disant, seule une personne assez sage pour prendre les bonnes décisions. Est-elle vraiment digne de porter le pectoral? La bonne décision est-elle toujours de nier le désir du pouvoir et de se soumettre à la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est-elle d'adhérer au commandement du tzaddik en chef? Le pectoral Néhémie pouvait être efficace que si une personne humble telle qu'Aaron le portait, car seule une personne humble, qui Néhémie s'intéresse qu'à la vérité, pourrait être le réceptacle approprié pour la parole du Dieu de vérité. 2 Timothée 3.16 Toute écriture est inspirée de Dieu. Cela signifie que c'est le souffle de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, 17 afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. L'apôtre Paul a dit dans Galates 6.6 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vu est, Galates 6.6 de plus, que celui à qui on enseigne la parole est continuellement en communion avec celui qui enseigne dans toutes les bonnes choses. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi le trait de caractère le plus important et nécessaire pour se rapprocher de Dieu est l'humilité. C'est pourquoi Aaron a été choisi pour être le sacrificateur et pour porter le pectoral. Car Aaron, en s'humiliant devant Moïse, était devenu un conduit approprié pour diffuser la puissance de Dieu au peuple juif. C'est pourquoi Josué a été choisi pour être le chef suivant après Moïse. Car il s'est rendu compte que le seul moyen pour apprendre de Moïse et pour devenir comme Moïse, c'est se vider devant son maître, comme le dit le verset concernant Josué, dans Exode 33.11. Nous lisons, le serviteur de Moïse, Josué le nu, un simple jeune, Néhémie sortit pas de la tente de Moïse. Ce verset décrit Josué comme étant un simple jeune alors qu'en fait, il avait à cette époque 70 ans. Ce que ce verset nous dit, c'est que Josué s'est tellement humilié devant son maître et a agi comme s'il Néhémie savait rien devant Moïse, que cette attitude ressemblait beaucoup à celui d'un simple jeune. En faisant cela, Josué a absorbé plus de la personnalité et de la sagesse de Moïse qu'aucune autre personne Néhémie pouvait le faire. Comme Josué a pu exceller en cela, il a donc été choisi par Dieu pour être le prochain leader. La vraie humilité est le plus haut niveau spirituel de tous. Car Moïse, en dehors de Christ Jésus, était la personne la plus humble qui n'ait jamais vécu. Je dirais que l'apôtre Paul et William Branham étaient en troisième position, à égalité. Mais ce qui a rendu si grand des hommes tels que Moïse, William Branham et Paul, c'est-à-dire qu'ils, comme Jésus, étaient si humbles qu'ils ont totalement soumis chaque membre de leur corps à la volonté de Dieu. Nous pourrions continuer encore et encore sur les hommes de Dieu dans la Bible comme Élisée, qui s'est humilié devant son mentor et allé au point que lorsqu'on lui a demandé de tout quitter et de le suivre, il l'a fait. Même moi avec les apôtres, quand Jésus leur a demandé, l'un après l'autre, de tout quitter et de le suivre, ils l'ont fait. La vraie humilité, Néhémie, signifie pas qu'une personne pense qu'elle n'est rien, ou agit comme si elle n'était rien. Afin d'avoir la vraie humilité, on doit croire qu'on est très précieux aux yeux de Dieu. Dans son sermon Une bannière 29 janvier 62, frère Branham dit, 57 Jésus dit dans Marc 16, voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Quel genre de bannière est-ce? Être pompeux est suffisant? Non. L'humilité. La plénitude de Dieu en Jésus-Christ l'a amené à marcher comme un humble paysan. L'a amené à laver les pieds de ses disciples. Il n'avait pas de place où reposer sa tête. Certains parmi nous qui nous disons chrétiens, si nous allons quelque part, il nous faut avoir ce qu'il y a de meilleur dans le pays, il faut qu'on nous garantisse beaucoup d'argent, sinon nous n'irons pas. L'évangéliste. Certains pasteurs n'iront pas à une église s'il n'y a pas les gens de la haute classe et un grand bâtiment. Oh là là, nous avons besoin d'une autre expérience comme celle de Paul sur le chemin de Damas. Paul a vu cette bannière hissée. Et il a dit, « Qu'es-tu ? Seigneur ? » Il a dit, « Je suis Jésus. » Ce dont nous avons besoin ce soir, c'est d'une autre colonne de feu suspendue au-dessus de l'église une fois de plus. Ce soir, de sorte que les yeux aveugles des gens s'ouvrent et qu'ils voient cela. Jésus vit et règne encore. La bannière. Écoutez, Dieu nous a appelés à être des rois et des sacrificateurs, et nous avons prouvé ce matin que jusqu'à ce que vous puissiez venir avec l'humilité d'esprit, il ne peut même pas vous utiliser. Alors, comment allons-nous être utilisés par Dieu si nous ne pouvons pas nous écarter du chemin? Frère Branham a dit, le plus grand don est de vous écarter du chemin. C'est ça la vraie humilité. Car comme Jésus, vous pouvez dire humblement et honnêtement dans votre cœur, pas ma volonté mais ta volonté, ô Dieu. Le sceau de Pâques samedi 10 avril 65-130, n'essayez pas de construire une église comme la leur. N'essayez pas d'avoir un pasteur comme cela. N'essayez pas de faire ceci, cela ou autre chose, ou de collaborer avec le monde. Eux, ils brillent comme Hollywood. Le véritable évangile rayonne de puissance. Cela, les aigles l'entendent. Il ne cherche pas ce qui brille. Il cherche ce qui rayonne. Ce qui rayonne d'humilité. Ce qui rayonne d'amour. Ce qui rayonne de puissance. Voilà ce que recherche le véritable aigle. On ne peut pas gratter le sol d'une basse-cour et que ça lui plaise. Il n'arrivera jamais à s'y faire. Sa Néhémie le touchera jamais, parce qu'il Néhémie le croit pas. Que cette voix venant du ciel crie, je suis celui qui était mort, et je suis vivant de nouveau. Quelque chose s'est produit. Je suis le même hier, aujourd'hui, et pour toujours, et il arrivera dans les derniers jours que je me répandrai sur toute chair. Gloire à Dieu. Je vivifierai votre langage mortel. Je vivifierai vos langues mortelles. Je vous donnerai une preuve que je vous prendrai avec moi dans la résurrection. Les aigles au cœur affamés s'efforcent d'atteindre cela de toute leur force. C'est la perle de grand prix. Ils vendront tout pour aller l'acheter. Que Dieu nous vienne en aide. Mes amis, nos assemblées sont en train de perdre leur identité. Dépêchons-nous, maintenant, pour en voir. Dieu se cache dans la simplicité. 12 avril 63 S270. Espace vide sur la bande NDE. Frappé et humilié. Et cependant nous l'avons considéré comme frappé et humilié de Dieu. Assurément de Dieu. Mais il était blessé pour nos péchés. Le Clorox 20. Il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. 271 qu'a-t-il fait? Il s'est humilié jusqu'à la mort. L'après-midi du vendredi saint. Afin de ressusciter le dimanche de Pâques. Amen. Pour envoyer le Saint-Esprit sur l'Église. En double portion. Afin que nous puissions accomplir les mêmes œuvres qu'il fait. Qu'il avait faites. Il a promis. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui y auront cru. Oh! Combien nous sommes éloignés de lui par nos traditions. Vous y êtes. 272 Dieu se cachant dans l'humilité, se révélant dans la puissance, c'est-à-dire ainsi que Dieu s'y prend. C'est-à-dire le plan de Dieu pour faire cela, oui? Oui, afin qu'il fasse traverser au Fils cet abîme. 273 pour terminer. Je peux dire ceci, Dieu se cachant dans la mort, pour revenir dans la résurrection. Remarquez comment frère Branham nous dit que Jésus s'est humilié dans la mort afin de ressusciter. Et dans la prochaine citation, il nous dit que la voie pourvue par Dieu, qui est la voie de la résurrection, vient par l'humilité. Et je crois, plus que jamais, que nous allons devoir mourir à nous-mêmes, et nous humilier à ce que la parole de Dieu dit de nous, si nous devons être prêts pour le temps de la résurrection. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin mars, 15 janvier 63 254 Kesters. C'est la voie à laquelle Dieu a pourvu, la voie de la résurrection. Ce qui éloigne l'homme de sa stupidité, le fait entrer dans la lumière de l'Évangile, le détache d'un cerveau intellectuel, comme un grand système de machines, et humilie son cœur devant Dieu. 255 Eh bien, direz-vous, cet homme est très intelligent, frère Branham. Il a 4 diplômes. Il a une licence S-lettres. Il a tout ça. Peu m'importe ce qu'il a. Il lui faudra oublier tout ce qu'il a appris pour connaître Christ. C'est vrai. Il lui faudra s'humilier et s'éloigner de tout ce que le monde a fait pour lui. 256 Et on connaît Christ par l'humilité, en croyant en lui. Écoutez le mardi 12 juillet 60-21 Vous savez, notre Seigneur, il vient parmi les hommes. Parfois, il vient dans de grands groupes de gens. Parfois il vient là où il y en a peu. Il nous est rapporté qu'il a une fois rencontré 500 personnes après sa résurrection. Et après, nous avons un passage où il a rencontré 70, 12, et même 3. Et puis, nous avons des fois où Néhémie rencontrera qu'une seule personne. C'est ce qui fait de lui Dieu pour moi. C'est parce qu'il est l'humilité. L'œil de Dieu mar 25 février 58-8 et en toute humilité nous inclinons la tête et te rendons gloire, alors que nous réclamons ta présence. Nous en avons le droit, car tu as promis de le faire. Tu le feras sur cette base, non pas parce que tu es aille obligé, mais parce que tu l'as promis, et que les écritures Néhémie peuvent être brisées. Elles doivent s'accomplir. Seigneur, nous attendons humblement, comme tes serviteurs, la manifestation de la résurrection de Jésus-Christ. Car nous le demandons en son nom. Amen. Prions.